Chapitre 16. Les récits de la roue. Son sceptre sur les genoux, Rand se prélassait sur le trône du dragon. Enfin, il faisait mine de se prélasser, parce que les sièges de ce genre n'incitaient pas à se détendre. Celui-ci en tout cas. Mais également parce que l'atmosphère n'était pas à la relaxation. Bien entendu, sentir en permanence Alana ne contribuait sûrement pas à l'apaiser. S'il en parlait aux promises, elle... Non. Comment pouvait-il seulement penser à ça? Alana, il l'avait assez effrayée pour qu'elle se tienne à distance. Jusque-là, elle n'avait pas tenté d'entrer dans la cité intérieure, et si elle essayait, il le saurait. Du coup, les coussins inconfortables du trône, pour l'instant, constituaient un problème plus pressant que la Aes Sedai. Malgré sa veste boutonnée jusqu'au col, Rand n'était pas affecté par la chaleur. Il maîtrisait de mieux en mieux l'astuce indiquée par Taïm. Mais si l'impatience avait fait transpirer, il aurait été plus trempé qu'en sortant d'une rivière. En d'autres termes, si se garder au frais ne présentait plus pour lui aucune difficulté, conserver son équanimité était une autre paire de manches. Son plan était d'offrir à Elaine un royaume d'Andorre intact et entier. Ce matin, il allait faire le premier pas important vers cet objectif. Si les gens qui l'attendaient venaient.
À quoi il faut ajouter,
continua à débiter d'un ton monocorde le grand type maigre qui se tenait devant le trône.
1123 réfugiés du Murundi, 567 de l'Altara et 109 de l'Iliane, en l'état actuel du recensement réalisé en ville, je m'empresse de le préciser.
Les rares cheveux gris qui s'accrochaient encore au crâne d'Alwyn Nori se dressaient derrière ses oreilles comme des plumes d'oie. Rien que de très approprié, puisqu'il était le chef comptable de Morgaz.
Pour cette opération, j'ai engagé 23 assistants supplémentaires, mais ces renforts sont insuffisants pour...
Rand cessa d'écouter. Satisfait que Nori n'ait pas déserté son poste, comme tant d'autres fonctionnaires, il doutait cependant que cet homme connaisse du monde autre chose que ses grands livres. Qu'il annonce le nombre de morts pendant la semaine ou qu'il évoque le prix des navets livrés en ville par les paysans, son ton ne variait pas d'un iota. Pareillement, organiser chaque jour les funérailles de réfugiés misérables ne le perturbait pas davantage que d'embaucher des maçons pour superviser les indispensables réparations des remparts. À ses yeux, l'Iliane était un pays parmi tant d'autres, pas le fief de Samael, et il tenait Rand pour un dirigeant lambda.
« Où sont-elles ? »
se demanda Rand, de plus en plus nerveux.
« Pourquoi Alana n'a-t-elle pas au moins essayé de se glisser jusqu'à moi ?»
Moiraine ne se serait jamais laissé décourager si aisément.
« Où sont tous les morts ?»
murmura Loustérine.
« Ne finiront-ils donc jamais par se taire ?»
Rand eut un ricanement sinistre. Ça, ce devait sûrement être une plaisanterie. D'un côté de l'estrade, Souline était accroupi presque nonchalamment. De l'autre se tenait Urienne, un guerrier roux. Aujourd'hui, 20 boucliers rouges montaient la garde parmi les colonnes de la salle en compagnie des promises, et certains portaient le fameux bandeau rouge autour du crâne. Qu'ils soient debout, accroupis ou assis, tous ces aïels, même ceux qui conversaient paisiblement, et jusqu'au bouclier rouge qui jouait au dé avec une promise, semblaient prêts à passer à l'action en une fraction de seconde. Qu'un homme des terres mouillées se tienne si près du Caracarne ne leur plaisant pas du tout, une paire d'yeux au moins était en permanence rivée sur Nori. Soudain, la silhouette de Bachéré se découpa dans l'encadrement des grandes portes du hall d'honneur. Voyant l'homme hocher la tête, Rand se redressa sur son fichu trône. Enfin, on y était.
Du bon travail, maître Nori,
dit Rand, en agitant le moignon de lance qui lui tenait désormais lieu de sceptre.
Votre rapport est vraiment très complet. Vous aurez les fonds que vous demandez, n'en doutez pas. Mais si vous voulez bien m'excuser, d'autres obligations m'appellent.
Le chef comptable ne fit montre d'aucune curiosité et ne s'offusqua pas d'être si cavalièrement interrompu. S'arrêtant en plein milieu d'un chiffre, il s'inclina, assura qu'il était aux ordres du seigneur Dragon et recula de 3 pas avant de pivoter sur lui-même. En sortant, il ne jeta même pas un coup d'œil à Bachéré. Ses grands livres, oui, et rien d'autre. Rand fit signe à Bachéré d'approcher, puis il se tint bien droit sur son siège. Autour de lui, tous les aïels se turent, semblant aussitôt 2 fois plus tendus, prêts à bondir à la première alerte. Bachéré avança avec sur les talons 2 hommes et 2 femmes, tous d'âge mûr,
qui tentaient de faire comme si leur guide n'existait pas et y parvenaient presque. En revanche, ignorer les Aiel présents dans le hall fut bien plus difficile. Alors que la blonde d'Aieline réussit à trébucher sur un seul pas, Abel et Luan, l'air peu commode malgré leur toison grisonnante, lorgnèrent agressivement les guerriers et les guerrières et portèrent d'instinct la main à l'épée qui ne battait pas leur flanc en ce jour. Les cheveux noirs, agréablement enveloppés, Dame et Laurienne, qui auraient été belles sans la détermination qui figeait ses traits, s'arrêta net et foudroya les Aiel du regard. Puis elle se reprit et rattrapa ses compagnons en trois enjambées. Les quatre visiteurs parurent tous surpris de voir enfin Rand de près. Tandis qu'ils échangeaient des regards interloqués, le jeune homme songea qu'il s'attendait sans doute à quelqu'un de plus âgé que lui.
« Seigneur dragon !»
dit Bachéré en s'immobilisant devant l'estrade.
« Seigneur du matin, prince de l'aube, fidèle défenseur de la lumière, vous devant qui le monde s'agenouille, je vous présente la dame d'Aieline de la maison Taravine, le seigneur Abel de la maison Pandar, la dame Elorienne de la maison Traeman et le seigneur Luan de la maison Norwelin. »
Les lèvres pincées et les yeux plissés, les quatre Andoriens daignèrent enfin regarder Bachéré. À sa façon de parler, on aurait cru qu'il entendait offrir quatre chevaux au seigneur dragon. Du coup, les visiteurs, si incroyables que ce fût, réussirent à paraître encore plus guindés et hautains. Comme si l'eau parvenait soudain à être plus mouillée. Autant que possible, vu la curiosité qu'éveillait en eux l'ahurissant trône du dragon, ils focalisèrent leur regard indigné sur Rand. Les voyant si outragés, le jeune homme dut se retenir de rire. Outragés, ces nobles dames et seigneurs ? Certes, mais également calculateurs, comme il se devait, et peut-être bien vaguement impressionnés. Rand et Bachéré avaient mis au point ensemble la liste des titres du dragon. Le passage au sujet du « monde qui s'agenouille » était néanmoins un ajout du maréchal du Saldaïa. Le conseil d'en rajouter venait de Moiraine. Parfois, Rand aurait juré entendre encore sa voix argentine.
« La première image qu'ils ont de toi, voilà ce que les gens gardent en mémoire. C'est ainsi que va le monde. Si tu te lèves d'un trône, tu peux te comporter comme un paysan dans une porcherie. Quelque chose, chez tes interlocuteurs, se souviendra quand même que tu étais assis sur un trône. Et s'ils te voient comme un jeune berger, ils n'aimeront pas te voir prendre place sur un trône plus tard, si puissant que tu sois. »
Si quelques titres bien ronflants pouvaient faciliter les choses, pourquoi s'en priver ?
« J'étais le seigneur du matin, » marmonna Loustérine. « Je suis le prince de l'aube. »
« Eh bien, je ne vais pas vous accueillir ici, puisque c'est votre pays, le palais de votre reine. Mais je me réjouis, sachez-le, que vous ayez accepté mon invitation. »
Au bout de 5 jours, et en s'annonçant quelques heures à l'avance, Mérand préféra ne pas évoquer les sujets qui fâchent. Se levant, il posa son sceptre sur le trône, puis descendit de l'estrade. Affichant un sourire réservé,
« Ne te montre jamais hostile, sauf quand c'est obligatoire. Et surtout, n'en fais pas trop dans le registre amical, pas d'empressement. »
Il désigna 5 confortables fauteuils rembourrés disposés en cercle au milieu des colonnes.
« Si vous voulez bien vous joindre à moi, nous parlerons en buvant du vin rafraîchi. »
Les Andoriens acceptèrent bien entendu l'invitation. Lorgnant les Aiel et Rand avec une égale curiosité, ils leur témoignèrent une même animosité, dissimulant aussi mal un sentiment que l'autre. Quand tout le monde fut assis, les Gaïshain apportèrent une carafe de vin et des gobelets d'or luisant de condensation. 4 autres vinrent se camper derrière les sièges avec un éventail en plumes, afin de rafraîchir les invités. Les Andoriens notèrent que Rand, sans un poil de mouillé, n'avait pas besoin qu'on les vante. Mais les Gaïshain non plus ne transpiraient pas, malgré leurs robes blanches, et les autres Aiel pas davantage. Par-dessus le bord de son gobelet, Rand dévisagea ses 4 visiteurs. Se rengorgeant d'être plus franc du collier que les autres, les Andoriens ne manquaient pas une occasion de rappeler que le grand jeu, chez eux, était bien moins développé que dans d'autres pays. Cela dit, ils affirmaient être parfaitement capables d'y jouer quand ça s'imposait. Ça n'était pas faux, mais les Kerrieniens et même les Théariens les jugeaient primaires, dès qu'on en venait aux subtilités des manœuvres et des contre-manœuvres typiques du Daes Daimar. Ces 4-là parvenaient à garder leur contenance, mais pour un jeune homme formé par Moiraine, puis perfectionné à Kaerien et à Théar, ils étaient aussi lisibles qu'un livre ouvert. Dès qu'ils s'avisèrent qu'il n'y avait pas de siège pour Bachéré, les regards qu'échangèrent les quatre nobles trahirent leur satisfaction. Et ce fut encore plus flagrant lorsque le maréchal sortit de la salle. Tels des débutants, ils allèrent jusqu'à sourire en le regardant s'éloigner. Comme Nahéan et les autres, ils devaient détester qu'une armée du Saldaïa soit présente chez eux. Mais au fond, l'influence du militaire étranger était peut-être moins forte qu'ils le croyaient. Après tout, Bachéré venait d'être traité comme un serviteur. De haut rang, certes, mais un serviteur quand même. Presque au même moment que Luan, Dayelin écarquilla légèrement les yeux pour mieux observer Rand, et les deux autres ne tardèrent pas à faire de même. À l'évidence, ils s'efforçaient de ne pas se regarder, histoire de ne pas trahir, croyaient-ils, leurs sentiments. Maréchal du Saldaéa, trois fois seigneur et oncle de la reine Tenobia. Si Bachéré était un domestique pour Rand...
Un excellent cru,
dit Luan, les yeux baissés sur son gobelet. Il hésita, puis ajouta comme si ça lui arrachait la gorge.
Seigneur dragon.
Un vin du sud,
dit Elorienne après avoir bu une gorgée.
Il vient des collines de Tunaigan. Je m'étonne que vous ayez trouvé de la glace à Kemlin cette année. Les gens parlent déjà de l'année sans hiver.
Pensez-vous que je perdrai mon temps et mon énergie à trouver de la glace alors que tout va si mal dans le monde ?
Soudain plus pâle, Abel sembla se forcer à boire une nouvelle gorgée. À l'inverse, Luan vida son gobelet et le tendit à un Gaishain afin qu'il le remplisse. De la fureur passa dans les yeux du serviteur, frappant contraste avec la docilité qui s'affichait sur son visage. Être au service de gens des terres mouillées revenait à se comporter comme un larbin, et les aïels abominaient la servilité. Un rejet qui se maria mal avec le concept même de Gaishain ? Sans nul doute. Pourtant, même si Rand n'aurait su expliquer comment c'était possible, il en allait bien ainsi. Dayelin posa sur ses genoux la main qui tenait son gobelet et ne s'intéressa plus au vin. De si près, Rand distinguait des mèches grises dans sa chevelure blonde. Toujours très belle, cette femme, n'était la crinière, ne ressemblait en rien à Elaine ou à Morgaz. Venant juste derrière la fille héritière sur la liste de succession, elle devait pour le moins être une proche cousine. Fronçant les sourcils à l'intention de Rand, elle sembla tenter de hocher sentencieusement la tête, mais préféra susurrer.
« Nous nous soucions des malheurs du monde, et moins que de ceux qui frappent notre royaume. Sommes-nous ici pour leur trouver un remède ?»«
Si vous en connaissez un, oui. Sinon, je devrais chercher ailleurs. Beaucoup de gens pensent connaître le bon médicament. Si je ne trouve pas celui que je veux, je me contenterai d'un pis-aller. »
Cette déclaration fut saluée par des mous pincés. Sur le chemin du hall, Bachéré avait fait traverser aux visiteurs une cour où Arimila, Lyre et les autres mijotaient depuis des heures, rongeant leurs freins. Et pour des yeux non initiés, ils semblaient être chez eux au palais.
« Réunifier le royaume d'Andorre, je me plais à le croire, est un objectif qui devrait vous motiver. Avez-vous entendu ma proclamation ?»
Inutile de préciser laquelle. Dans ce contexte, il ne pouvait s'agir que d'une seule.
« La récompense offerte pour toute nouvelle d'Elaine ?»
lâcha Elorienne, le visage de pierre.
« La future reine depuis la mort de Morgaz. »«
Moi, j'ai trouvé ça bien, »
fit Dayelin.
« Eh bien, pas moi !»
s'écria Elorienne.
« Morgaz a trahi ses amis et humilié ses plus anciens partisans. Finissons-en avec la mainmise de la maison Trakand sur le trône de Lyon. »
L'Andorienne et ses compagnons semblaient avoir oublié jusqu'à la présence de Rand.
« Dayelin !»
souffla Luan. Dayelin hocha la tête, comme si elle avait déjà entendu ça, mais il continua.
« C'est Dayelin l'héritière légitime. Je me prononce pour elle. »«
Elaine est la fille héritière, »
insista Dayelin.
« Et je me prononce pour elle. »«
Qu'importe nos préférences, »
intervint Abel.
« S'il a tué Morgaz, il... »
L'Andorien s'interrompit, fit la grimace, puis regarda Rand. Pas vraiment pour le défier, mais comme s'il s'attendait à le voir exploser de fureur.
« Ce que vous croyez ?»
demanda le jeune homme, en regardant tristement le trône du lion exposé sur son piédestal.
« Pourquoi aurais-je tué Morgaz pour livrer ensuite le royaume à Elaine ?»«
On ne sait trop que croire, »
dit Elorienne, les joues encore roses de colère.
« Les gens disent beaucoup de bêtises. »
« Par exemple ?»
La question de Rand s'adressait à Elorienne. Ce fut pourtant Dayelin qui répondit, en le regardant droit dans les yeux.
« Que vous livrerez l'ultime bataille et tuerez le ténébreux. Que vous êtes un faux dragon ou la marionnette des Aes Sedai, voire les deux. Que vous seriez le fils illégitime de Morgaz, ou un haut seigneur de Théar, ou un Aiel.
L'Andorienne hésita, puis continua.
Que vous seriez le rejeton d'une Aes Sedai et du Ténébreux. Que vous êtes le Ténébreux, tout simplement. Ou le Créateur ayant pris une apparence humaine. On dit que vous détruirez le monde, que vous le sauverez, que vous le dominerez, ou que vous donnerez naissance à un nouvel âge. Autant de versions qu'il y a de bouche, en quelque sorte. Mais presque tout le monde pense que vous avez tué Morgaz. Et Elaine, tant que vous y étiez. Votre proclamation serait un paravent pour cacher ce crime-là.
Rand soupira. Certains de ces mensonges étaient pires que tous ceux qu'il avait entendus.
Je ne vous demanderai pas ce que vous pensez.
Pourquoi Dailin continuait-elle à le dévisager, sourcils froncés? Et pourquoi les autres faisaient-ils pareil, le regardant, comme il attendait qu'Arimila et les autres le fassent dès qu'il avait le dos tourné?
Observant, observant.
Une intervention de Loustérine, sur le mode murmure de dément.
Je te vois, mais qui me voit?
Malgré tout ça, m'aiderez-vous à réunifier le royaume d'Andorre? Je ne veux pas qu'il finisse par ressembler aux Kairiennes, ou pire encore, aux Tarabones ou à la Raddoman.
J'ai quelques lumières sur le cycle de Karaïton,
dit Abel.
À mes yeux, vous êtes bien le dragon réincarné. Mais rien n'indique que vous devez régner. Il est seulement question de l'ultime bataille, durant laquelle vous affronterez le Ténébreux.
Rand serra si fort son gobelet que la surface du vin se rida. Tout aurait été bien plus facile si ces gens avaient ressemblé à la majorité des hauts seigneurs de Théar ou des nobles de Kyrienne. Mais ils ne semblaient pas assoiffés de pouvoir, se contentant de celui qu'ils détenaient déjà. Quelle que soit la façon dont le vin avait été rafraîchi, il semblait douteux que le pouvoir de l'unique intimide ces quatre-là.
« Si j'essaie, ils me répondront. Tuez-nous et soyez réduits ensemble pour ce crime. »«
Oui, réduits ensemble, »
répéta Loustérine.
« Combien de fois devrais-je répéter que je ne veux pas régner sur Andorre? Dès qu'Elaine aura pris place sur le trône du lion, je m'en irai, pour ne plus jamais revenir, si possible. »«
Si le trône revient de droit à quelqu'un, »
dit Elorienne.
« C'est à Dagelin. Si vous êtes sincère, faites la couronner, puis partez. » Le royaume sera réunifié, et je suis sûr que nos soldats vous suivront, quand sonnera l'heure de l'ultime bataille, si ça s'impose.
Je continue à refuser,
déclara Dailin.
Seigneur Dragon, je vais attendre et réfléchir. Quand je verrai Elaine vivante et couronnée, et lorsque vous aurez quitté le royaume, j'ordonnerai à mes vassaux de combattre à vos côtés, et qu'importe si d'autres en Andorre font ou non de même. Mais si, le temps passant, il s'avère que vous régnez ici, ou si vos sauvages font subir à ce royaume ce qu'ils ont infligé aux Kairiennes ou à Théar.
Dailin foudroya du regard les promises, les boucliers rouges et les Gaïshine, comme si ça donnait au pillage devant ses yeux.
Ou si vous lâchez sur nous les hommes qui ont bénéficié de votre amnistie, eh bien je me dresserai contre vous. Même si tout le monde en Andorre courbe l'échine.
Moi, je ne la courberai pas,
dit Luan.
Et moi non plus.
Affirma Elorienne, bientôt imitée par Abel. Rand renversa la tête en arrière et ne put s'empêcher d'éclater de rire.
Par la lumière, dire que je pensais une franche opposition préférable à des complots ou à de la flagornerie.
Les Andoriens le regardèrent comme s'il était devenu fou. À dire vrai, il n'aurait pas juré qu'il se trompait.
« Pesez votre décision, »
dit-il en se levant pour mettre un terme à l'audience.
« Je suis sincère, mais ne perdez pas ça de vue. Tarmon Gaïdon approche, et il ne vous reste peut-être pas beaucoup de temps pour méditer. »
Les Andoriens voulurent se retirer après avoir salué Rand d'un signe de tête. Un salut entre égaux, mais c'était toujours mieux qu'en arrivant. Mais Rand retint Dailin par la manche. Les trois autres s'immobilisèrent, se tournant à demi.
« J'ai une question pour vous, intime. »
L'Andorienne hésita, puis acquiesça. Sans hâte, ses compagnons s'éloignèrent, jusqu'à ne plus être à portée d'oreille.
« Vous m'avez regardé bizarrement, comme tous les nobles andoriens, à vrai dire. Pourquoi ?»
Dailin étudia un moment son interlocuteur.
« Comment se nomme votre mère ?»«
Ma mère ?»
Kari Altor. Pour lui, c'était elle, sa mère, la femme qu'il avait élevée jusqu'au jour de sa mort. Mais la vérité était tout autre, comme il l'avait découvert dans le désert des Aiel. Et il décida de ne pas la cacher à l'andorienne.
« Ma mère, Chayel, était une promise de la lance.
Janduin, mon père, était le chef de la tribu des Aieltar, Dad.
Dayelin fronça pensivement les sourcils.
Je suis prêt à le jurer sur tout ce que vous voudrez. Mais quel rapport avec ce que je désire savoir? Ils sont tous les deux morts depuis longtemps.
Dayelin parut soulagée.
Dans ce cas, il doit s'agir d'une ressemblance fortuite. Je ne prétends pas que vous ne connaissez pas vos parents. Mais votre accent, c'est bien celui de l'ouest du royaume d'Andorre. Une ressemblance? J'ai grandi à Deux-Rivières. Mais mon père et ma mère sont bien Chayel et Janduin. À qui est-ce que je ressemble pour qu'on me dévisage ainsi?
Dayelin hésita, puis soupira.
Bien, c'est sans importance, je suppose. Un jour, il faudra que vous m'expliquiez comment, en ayant des parents à Yel, vous avez pu grandir en Andorre. Il y a 25 ans, et même un peu plus désormais, la fille héritière d'Andorre disparut soudain une nuit. Nommée Tigraine, elle laissait derrière elle un mari, Taringeil, et un fils, Galad. C'est le fait du hasard, je sais. Pourtant, quand je vous vois, je la revois. C'est très troublant.
Rand aussi se sentit troublé, laissant glacer même. Des bribes de l'histoire que lui avaient racontée plusieurs matriarches revinrent à sa mémoire.
Un jour, mes compagnes et moi vîmes une jeune femme blonde des terres mouillées.
Elle parlait d'un enfant abandonné, un fils qu'elle adorait, et d'un mari qu'elle n'aimait pas.
Chayel, c'était le nom qu'elle choisit. Jamais je ne l'ai entendu en mentionner un autre. Tu lui ressembles un peu.
Plus qu'à Janduin, en tout cas.
Comment Tigraine a-t-elle disparu? Je m'intéresse beaucoup à l'histoire du royaume d'Andorre. Seigneur, je vous serai reconnaissante de ne pas parler d'histoire dans ce cas. Quand c'est arrivé, je n'étais déjà plus une enfant. Et je séjournais souvent au palais. Un matin, on s'aperçut que Tigraine n'était plus là, tout simplement. Et on ne la revit plus. Certains accusèrent Taringeil, mais il devint à moitié fou de chagrin. Kyrianien de naissance, Taringeil avait pour unique ambition d'avoir un fils et une fille, qui deviendraient un jour le roi du Kyrien et la reine d'Andorre. Son mariage avec Tigraine visait à mettre un terme à la guerre entre le royaume d'Andorre et le Kyrien. Ce fut un succès. Hélas, la disparition de Tigraine conduisit les Kyrianiens à penser qu'Andorre voulait rompre le traité. Volontiers enclins à comploter, ils ne s'en privèrent pas. Ce qui eut pour conséquence la faute de Laman. Bien entendu, vous connaissez les conséquences de cette dernière. Et selon mon père, la véritable responsable était Jitara Sedai.
Jitara ? Répéta Rand, sa voix ne s'étranglant pas par un quelconque miracle. Ce n'était pas la première fois qu'il entendait ce nom. Jitara Moroso, une Aes Sedai dotée du pouvoir de prédiction, avait annoncé la naissance du dragon réincarné sur les pentes du pic du dragon. L'événement à l'origine de la longue quête de Moiraine et Siouan. Des années plus tôt, c'était cette même Jitara Moroso qui avait dit à Chayel qu'elle devait fuir dans le désert des Aiel sans avertir personne et devenir une promise de la lance. Faute de quoi, avait-elle précisé, un désastre s'abattrait sur le royaume d'Andorre, puis sur le monde entier.
Jitara était la conseillère de la reine Mordrelen,
fit Dayelin avec une pointe d'impatience dans la voix.
Mais elle passait plus de temps avec Tigraine et son frère Luc qu'avec la souveraine. Après que Luc s'en fut allé vers le nord pour n'en plus jamais revenir, certains murmurèrent que Jitara lui avait soufflé que la gloire, ou le destin, l'attendait dans la flétrissure. D'autres prétendirent qu'il était parti afin de trouver le dragon réincarné, et d'autres encore que l'issue de l'ultime bataille dépendait de ce voyage sans retour. Cet événement est antérieur d'un an à la disparition de Tigraine. Pour ma part, je doute que Jitara ait le moindre rapport avec le départ de Luc ou la fugue de sa sœur. J'en veux pour preuve le fait qu'elle resta conseillère jusqu'à la mort de Mordrelen. Une fin provoquée par le chagrin d'avoir perdu sa fille peu après son fils. En tout cas, on le disait volontiers. C'est ainsi que commença le long conflit pour la succession.
Dayelin regarda ses compagnons, qui s'impatientaient de l'avoir traîné ainsi, suspectant peut-être même quelque trahison. Mais elle ne put pas résister au plaisir d'ajouter quelque chose.
Sans cette disparition, la face d'Andorre aurait été changée. Tigraine sur le trône, Morgaz confiné au statut de haute chair de la maison Trakand, Elaine jamais née. Morgaz a épousé Taringeil après avoir accédé au trône, donc qui sait ce qui aurait changé d'autre?
Alors qu'il regardait l'Andorienne rejoindre ses amis, Rand songea spontanément à une chose qui aurait à coup sûr changé. Sa présence en Andorre, puisqu'il ne serait pas né, tout comme Elaine. La boucle se bouclait, semblait-il, et tout se tenait. Tigraine était parti pour le désert des Aiel en secret. Du coup, Laman avait coupé Avendoraldera,
un présent de ses mêmes Aiel, afin de se fabriquer un trône. Cette provocation avait conduit les guerriers du désert à traverser la colonne vertébrale du monde, afin de tuer le roi. L'unique objectif de cette attaque, même si on parlait à tort de guerre des Aiel. Et une promise nommée Chayel les avait accompagnés, trouvant la mort en accouchant sur les pentes du pic du dragon. Tant de vies bouleversées ou sacrifiées pour que sa mère puisse lui donner le jour et mourir au moment et à l'endroit requis. Si Kari Altor était la mère dont il gardait un vague souvenir, il aurait voulu avoir connu Tigraine, ou Chayel, si elle préférait ce nom. Même un bref instant, pour pouvoir dire qu'il avait posé ses yeux sur elle. De stériles rêveries. Cette femme était morte depuis longtemps. Alors, pourquoi cette absurde nostalgie?
La roue du temps et celle de la vie d'un homme tournent de la même façon, murmura Loustérine. Sans pitié ni compassion.
Es-tu vraiment là? Pensa Rand. Si tu es davantage qu'une voix et quelques antiques souvenirs, réponds-moi. Es-tu là?
Silence.
Pourtant, Rand aurait bien eu besoin des conseils de Moiraine, ou de quelqu'un d'autre. Soudain, il s'avisa qu'il avait rivé les yeux sur le mur de marbre blanc du hall d'honneur, en direction du nord-ouest, là où se trouvait Alanna, qui avait quitté le molosse de Kulain.
Non, que la lumière la brûle!
Pas question qu'il remplace Moiraine par une sœur qui lui avait tendu un tel piège. Désormais, il ne devrait plus se fier aux femmes compromises avec la Tour Blanche. À l'exception d'Elaine, de Ninévé et d'Egwen. Et encore, rien n'était moins sûr. Sans trop savoir pourquoi, Rand leva les yeux vers la voûte où des vitraux représentaient des scènes de bataille ou des portraits de reines, chaque œuvre étant séparée de la suivante par un lion blanc. Toutes ces femmes géantes semblaient le toiser, se demandant ce qu'il fichait ici. Un tour de son imagination, bien sûr. Mais pourquoi? Parce qu'il venait d'apprendre la vérité au sujet de Tigraine? Qui se jouait de lui? Son imagination ou la folie?
Quelqu'un vient d'arriver,
dit soudain Bachéré à côté de Rand.
Une personne que vous devriez voir.
Le jeune homme se détourna des reines géantes. Avait-il vraiment rendu leur regard à ces images? Bachéré était revenu avec un de ses cavaliers. Un type aux yeux verts inclinés plus grand que lui. Avec le maréchal, ce n'était pas difficile. Et à la barbe et aux cheveux noirs.
Pas question, sauf s'il s'agit d'Elaine,
répondit Rand, plus agressivement qu'il l'aurait voulu.
Ou quelqu'un ayant la preuve que le ténébreux est mort. Ce matin, je vais à Kyrienne.
Un projet qui ne nourrissait pas avant que ces mots franchissent ses lèvres. Là-bas, il y avait Egwen. Et les reines géantes ne l'y suivraient pas.
Je n'y suis pas allé depuis des semaines. Si je n'y prends pas garde, un seigneur ou une dame réclamera le trône du soleil dans mon dos.
Bachéré dévisagea Rand d'un air perplexe. Pour un dirigeant, il donnait beaucoup trop d'explications.
Comme il vous chantera, mais vous devriez d'abord voir le visiteur. Il dit venir de la part du seigneur Brend, et je suis enclin à le croire.
Les Aiel bondirent tous sur leurs pieds. Ils savaient qui utilisait ce nom. Rand n'en crut pas ses oreilles et ne le cacha pas. Recevoir un émissaire de Samael, c'était bien la dernière chose qu'il attendait.
Faites-le venir, Ahmad,
dit simplement Bachéré. Le jeune cavalier s'éloigna. Quelques minutes plus tard, il revint avec une petite compagnie de soldats du Saldaïa, massés autour de ce qui semblait être un prisonnier. À première vue, l'homme semblait inoffensif. Désormais, il portait une longue veste grise à haut col et arborait une barbe sans moustache, deux éléments typiques de la mode ilianienne. Sous son gros nez, ce visiteur affichait un sourire qui ne variait pas d'un pouce. Une expression figée et parfaitement contradictoire de l'angoisse qui volait son regard. Bachéré levant une main, la colonne s'arrêta à 10 pas de Rand. La colonne, mais pas l'Ilianien, qui continua jusqu'à ce qu'Amad, lui braquant une épée sur le torse, lui laisse le choix entre s'immobiliser ou finir embroché. L'inconnu daigna à peine regarder la lame, puis il dévisagea de nouveau Rand avec ses yeux terrifiés. Pendant le long de ses flancs, ses mains se contractaient sans cesse. Une autre preuve que son impassibilité était de l'esbroufe. Rand avança, mais Soulin et Urien vinrent se placer devant lui. Pas exactement pour lui barrer le passage, mais pas très loin non plus.
« Je me demande ce qu'on lui a fait, » dit Soulin.
Des promises et des boucliers rouges, certains voilés, étaient sortis de l'ombre des colonnes.
« Si ce n'est pas une créature de ténèbres, il a au moins été touché par elle.
Un être pareil peut faire n'importe quoi,
dit Urien, un des porteurs du bandeau rouge.
Comme tué d'un simple contact. Un message utile à envoyer à un ennemi, non ?
Bien que la promise et le bouclier rouge ne se soient pas adressés à lui, Rand approuva du chef. L'hypothèse se tenait.
Quel est ton nom ?
Demanda-t-il à l'émissaire. Voyant que leur caracar n'avancerait plus, Soulin et Urien s'écartèrent un peu.
Je suis envoyé par Samael,
répondit l'homme, sans se départir de son sourire.
J'ai un message pour le dragon réincarné. Pour vous, donc.
Au moins, c'était une approche directe. Le messager était-il un suppôt des ténèbres, ou un innocent piégé par un attissage pervers dont Samael, selon Asmodéane, était un expert ?
J'écoute,
fit Rand. Lilianien reprit la parole d'une voix totalement changée, plus grave, vibrante de confiance, et dotée d'un accent en tout point différent.
Le jour où le ténébreux reviendra, nous ne serons pas dans le même camp, c'est certain.
En attendant, pourquoi nous entretuer et laisser des mandrets des Graendal tirer les marrons du feu à notre place ?
Grâce aux lambeaux de souvenirs qui flottaient dans son esprit, ceux de Lusterin, Rand identifia cette voix. C'était celle de Samael. Dans la tête du jeune homme, Lusterin ricana.
Tu as déjà un gros morceau à avaler,
continua Samael.
Alors pourquoi risquer une indigestion ? D'autant que je suis plutôt difficile à mâcher. Même si ces mirages ou Asmodéa ne profitent pas que tu sois occupé pour te frapper dans le dos. Je te propose une trêve, jusqu'au jour où le ténébreux reviendra. Si tu ne tentes rien contre moi, je te rendrai l'appareil. Je m'engage à ne pas dépasser en direction de l'Andorre, une frontière matérialisée par une ligne passant par les plaines de Maredo, Lugard et Jeanna. Tu vois, je te laisse la part du lion. Je ne prétends pas parler au nom des autres rejetés, mais au moins, tu n'auras rien à craindre de moi hors des territoires que je contrôle. Je jure de ne pas aider les autres à t'attaquer, ni à se défendre si tu les agresses. Jusqu'à présent, tu t'es révélé un excellent exterminateur de rejetés. À mon avis, tu seras encore plus efficace sachant que ton flanc sud est à l'abri et que tes adversaires ne peuvent pas compter sur moi. Ainsi, au bout du compte, il n'y aura que toi et moi, comme il convient. Comme il est écrit, même.
Les yeux fous, l'émissaire referma la bouche et afficha de nouveau son sourire figé. Rand n'en crut pas ses oreilles. Une trêve avec Samael ? Même si le rejeté avait été digne de confiance, le débarrassant d'une menace, jusqu'à ce que toutes les autres soient éliminées, ce serait revenu à abandonner des centaines de milliers d'innocents au bon vouloir d'un tyran réputé pour ignorer la clémence. Sentant la colère glisser comme de l'eau sur son cocombe vide, Rand s'avisa qu'il s'était connecté au Saïdine. Un mélange d'exquise douceur et d'ignoble vermine fit écho à sa fureur. Lusterin, tout aussi furieux que lui dans sa démence, au point que leurs deux colères se confondaient.
« Voici ma réponse, »
lâcha Rand.
« Je dépose à ses pieds chaque vie qu'il a prise depuis son réveil, et pour elle, je réclame vengeance. Pour chaque meurtre, je lui demande des comptes. Dans le Ror Nemdoy, à Nol Caïmaïn et à Soadra, il a échappé à la justice. »
Encore des souvenirs de Lusterin. Mais la douleur et l'horreur étaient telles, dans ses évocations, que Rand les sentait faire pression sur le vide, comme si elle lui avait appartenu.
« Mais cette fois, il ne s'en tirera pas. Pas de trêve avec les rejetés. Dis-le à ton maître. Je ne pactise pas avec les ténèbres. »
Le messager leva une main tremblante pour essuyer la sueur qui ruissait sur son front. Non, pas de la sueur, du sang. Du fluide vital sourdait de sa peau et il tremblait de la tête aux pieds. Ahmad recula et plusieurs gardes l'imitèrent. Bachéré se lissa nerveusement la moustache et les aïels eux-mêmes frémirent. Lilianien explosa en un geyser de sang, puis s'écroula. Réfugié dans son cocon de vide, Rand le regarda mourir. Uni au Saïdin, il n'éprouvait aucun sentiment, et de toute façon, il n'aurait rien pu faire. Même s'il avait été un maître de la guérison, ça n'aurait pas suffi.
« Eh bien, »
dit Bachéré,
« en ne voyant pas revenir cet homme, Samael aura sa réponse. J'ai entendu parler de « tuer le porteur d'une mauvaise nouvelle ». Jamais d'abattre le messager pour savoir que sa nouvelle était mauvaise. »
Rand acquiesça. La mort de Lilianien ne changeait rien, pas plus que d'avoir appris la vérité sur Tigraine.
qu'on le fasse inhumer. Une prière ne fera pas de mal, même si elle ne fera pas de bien non plus.
Pourquoi les reines géantes gardaient-elles ce regard accusateur? De toute évidence, elles avaient dû voir bien pire que ça de leur vivant, et peut-être même dans ce hall. Même dans le vide, Rand pouvait toujours localiser Alana. Pourrait-il se fier à Egwen, alors qu'elle ne lui disait pas tout?
Je passerai peut-être la nuit à Kaerien.
Une fin étrange pour un homme étrange,
dit Avienda, tout en contournant l'estrade. Derrière, les petites portes conduisaient à des vestiaires, et plus loin, à différents couloirs. Rand faillit s'interposer entre la gueule et le cadavre qui gisait sur l'étale rouge et blanche, mais il se ravisa. Après lui avoir jeté un regard distrait, Avienda ignora la dépouille. Quand elle était une promise, elle avait dû voir autant de gens mourir que Rand, sinon plus. Et lorsqu'elle avait renoncé à la lance, elle devait avoir au moins autant de morts à son tableau de chasse qu'il avait vu de corps, à cette époque. Laiel l'étudia, pour s'assurer qu'il n'était pas blessé. Lui souriant, certaines promises s'écartèrent pour la laisser accéder à Rand, et elles allèrent même jusqu'à pousser des boucliers rouges sur le côté. Avienda n'en profita pas pour approcher. Quoi que puisse imaginer les promises, elle restait aux côtés de Rand parce que les matriarches l'avaient chargée de l'espionner. Une bonne chose, au fond, puisqu'il crevait d'envie de la prendre dans ses bras dès qu'il l'apercevait. Si elle avait voulu de lui, la situation aurait été intenable. Le bracelet d'ivoire qu'elle portait était un cadeau du jeune homme. Le seul bijou qu'elle arborait, à part un collier d'argent au mystérieux motif du Candor. Un présent aussi, mais de qui? Par la lumière, pensa Rand, révulsé. Désirer Elaine et Avienda, alors qu'il savait pertinemment que ni l'une ni l'autre n'était pour lui. Tu es pire que tout ce que Matt a seulement envisagé d'être un jour. Quand il pensait devoir lui faire du mal, même le jeune flambeur avait la décence de se tenir loin d'une femme.
« Je dois aller aussi à Kaerien, »
dit Avienda. Rand eut une moue amère. Une nuit à Kaerien, en temps normal, ça voulait dire ne pas l'avoir dans sa chambre, pour une fois.
« Ça n'a rien à voir avec... »
commença la jeune femme, avant de se mordre les lèvres.
« Je veux parler avec les matriarches, Amis surtout. »«
Bien sûr, et il n'y a aucune raison que tu t'en prives. »
Avec un peu de chance, Rand réussirait à repartir en laissant son espionne derrière lui.
« Cet après-midi, »
dit Bachéré, une main posée sur le bras de Rand.
« Vous aviez prévu de voir mes cavaliers à l'entraînement. »
Un ton mesuré, mais un regard qui en disait long. L'obligation que mentionnait Bachéré était importante. Mais Rand avait besoin de s'éloigner de Kaemlyn et du royaume d'Andorre.
« Demain, ou le jour d'après. »
Oui. Il devait fuir le regard de ces reines géantes, qui semblaient se demander si un homme de leur lignée, car il l'était par le sang et les cendres, allait dévaster leur pays après en avoir ravagé tant d'autres. Et être loin d'Alana aussi, même pour une simple nuit.